carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Carrefour des Arts vous emmène dans les jardins de Versailles au cours de 3 émissions réalisées sur place en compagnie de Patricia Bouchenaud-Deschamps, historienne et écrivain. Quelle était l'utilité des jardins de Versailles? C'est sur ce thème que nous retrouvons notre historienne sur place, après avoir évoqué au cours des 2 autres émissions les jardins à la française et l'importance du métier de jardinier à l'époque de Louis XIV. Mais pour l'heure, intéressons-nous aux usages. Un jardin pour recevoir, un jardin pour éduquer, pour le plaisir du roi soleil également, mais aussi un jardin pour impressionner.
Quand on pense à jardin, et notamment jardin du temps de Louis XIV, d'abord la première image, j'ai envie de dire, qui vient à l'esprit des gens, c'est d'abord un jardin de pouvoir. Louis XIV a créé ses jardins pour asseoir son pouvoir.
Pour en jeter, on va dire.
Pour, hein. Voilà, pour impressionner, voilà, pour montrer sa puissance. Alors, c'est pas inexact, mais ça n'est pas que ça. Et c'est donner une image, j'ai envie de dire, achevée de Versailles. Versailles, avant d'être un jardin ou, comme ça, qui a impressionné les visiteurs étrangers, eh bien, ça a d'abord été un jardin qui a correspondu aux étapes de la vie de Louis XIV. Ça a d'abord été un jardin de jeunesse, d'un roi jeune qui aimait les fêtes. Et donc, nous avons d'abord eu un jardin de fêtes. Et ce jardin de fêtes, avec 3 grandes fêtes, 1664, 1668 et 1674, ce furent 3 étapes très importantes. D'abord parce que ce sont des fêtes inoubliables qui ont été gravées. Les historiographes se sont empressés de diffuser partout ces moments d'exception, qui correspondent non seulement à des victoires militaires, mais également à des victoires sentimentales de Louis XIV. Mais on a du coup eu à chaque fois comme une étape qui était franchie dans les jardins. Et à chaque nouvelle fête, le public a pu, et la cour a pu, l'un et l'autre ont pu découvrir une nouvelle étape dans les jardins de Versailles. Donc il y a eu quelque chose effectivement de magique qui correspond profondément à ce qu'était Louis XIV, ce roi qui a dansé, ce roi qui était un roi jeune. Il y a eu ce Versailles de la jeunesse, rempli de fantaisie, rempli d'enfance, que l'on découvre et qu'on continue à redécouvrir ici avec cette magie de surprise qui existe encore et que l'on trouve aussi bien dans la statuaire que dans ces jeux que l'on trouve avec ces jeux de buis. Regardez toutes ces topiaires par exemple. Alors on est dans l'art souverain du jardinier, hein, le jardinier latin, c'est le topiarius.
D'ailleurs,
celui
on entend
taille,
un jardinier
hein.
qui
ratille les allées, comme on disait. Ça, c'est le geste extraordinaire parce que quand on regarde l'iconographie de l'époque et toutes ces grandes vues des jardins de Versailles, eh bien, on voit des jardiniers qui ratillent, on voit d'autres qui manient le croissant le long des palissades pour les tailler impeccablement. On manie le ciseau pour tailler les taupières et c'est un jardin qui est extrêmement vivant. Un jardin, c'est quelque chose qui change tous les jours et donc si vous ne taillez pas vous n'avez plus qu'une boule informe 3 mois après, donc j'exagère et ça fait moche, donc ça ne ressemble plus à rien. Donc c'est un jardin, c'est un soin perpétuel. On a un jardin qui est vivant, donc ça a été d'abord un jardin de fête, ça a été également un jardin de promenade. Un jardin de promenade, ça on se l'imagine assez bien, le roi se promenant le matin entre hommes
avec ses favorites.
Non, le matin entre hommes et l'après-midi, en revanche, avec les dames. On a 2 séries de promenades que l'on voit bien à travers les mémoires de l'époque. Et c'est intéressant de voir que la promenade du matin est une promenade, entre guillemets, un peu plus technicienne. Le roi s'entretient avec les fontainiers, avec les jardiniers. C'est quelque chose donc d'un petit peu différent. Alors que l'après-midi, la promenade est avec les dames. Et elle peut être tantôt à pied, elle peut être à cheval. L'âge venant, elle sera même en petite charrette, en petite carriole. Et elle peut être, alors ça c'est absolument charmant, elle peut être en bateau, puisque on montait là pour se rendre à Trianon, où on pouvait avoir le plaisir d'un concert en haut de la balustrade, où on se rendait à la ménagerie en face de Trianon, ménagerie aujourd'hui disparue. Et donc c'était une autre sorte de promenade. Et puis il y avait évidemment un autre usage pour ces jardins, et qui relie ce premier jardin au grand parc, eh bien, c'est bien évidemment le plaisir de la chasse, hein, le plaisir souverain des rois, qui permet également aussi d'entretenir, j'ai envie de dire, toute une noblesse à cheval et pendant le temps où elle n'est pas à la guerre. Un jardin qui est également aussi étonnamment un jardin d'éducation. Éducation pour les princes, avec le fameux labyrinthe, avec ses fontaines et ses fables d'Ésope qui ont été créées pour la promenade du Grand Dauphin avec Fénelon et donc qui permettaient l'éducation du Grand Dauphin. On a un jardin d'éducation aussi pour le courtisan. Puisque quand on se promène et que l'on regarde un certain nombre de bosquets, l'encelade est comme un petit aiguillon pour chaque courtisan qui rappelle qu'il ne faut peut-être pas trop essayer de vouloir déloger les dieux de l'Olympe, sinon il peut arriver les mêmes choses qu'à Fouquet. D'ailleurs, quand on songe d'ailleurs à Fouquet, très 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 souvent, j'ai envie de revenir sur cet épisode parce que très souvent on entend « Ah oui, mais le roi a piqué à Fouquet le nôtre, le brin, etc. Bah, » le problème, c'est que ça ne correspond pas tout ça. Ça ne correspond pas parce que d'abord, quelle raison le roi avait-il de prendre des serviteurs de l'un pour lui, dans la mesure où tous étaient avant tout les serviteurs et les officiers du roi. André Le Nôtre avait été successivement, il est fils et petit-fils de jardinier du roi. Lui-même a été le jardinier de Gaston d'Orléans avant de devenir jardinier du roi. Il l'est déjà depuis 20 ans. Quand il va travailler à Vaux-le-Vicomte, il est déjà au service de Louis XIV. Non seulement il a été jardinier des Tuileries, mais il est devenu dessinateur de l'ensemble de ses jardins. Et pendant qu'il est à Vaux, il sera même nommé contrôleur des bâtiments. Donc ce n'est pas Louis XIV qui va piquer le nôtre à Fouquet, mais tout simplement le roi permettait à ses serviteurs de travailler pour des particuliers comme pour lui-même. Donc ça c'est la première chose. Puis la seconde chose, j'ai envie de dire, mais pourquoi le roi aurait-il été jaloux des jardins ? Les jardins de Vaux-le-Vicomte, il les connaissait quand il est revenu avec Marie-Thérèse au moment de son mariage. Il est passé à Vaux-le-Vicomte, il a vu les jardins en travaux. Ce n'est pas ça qui a provoqué sa colère. Il connaissait de même, Louis XIII ne s'est jamais offensé, des jardins de Richelieu. Ce ne sont pas les jardins en soi qui ont provoqué la colère de Louis XIV. C'est tout un système de prévarication qui entourait Fouquet. Colbert avait ajouté une petite couche pour récupérer le portefeuille. Bon, on n'est jamais que dans un jeu de pouvoir tout à fait contemporain, enfin semblable à ce que nous pouvons encore connaître de nos jours. Mais donc je dirais que on ne peut pas dire que ce sont les jardins de Vaux-le-Vicomte qui auraient provoqué la jalousie de Louis XIV. En revanche, l'étalement des richesses, à un moment donné où lui n'en avait pas forcément les moyens, où Fontainebleau avait besoin de travaux, où le Louvre avait besoin de travaux et les résidences royales étaient dans un état qui nécessitait vraiment une vraie campagne de restauration. Oui, cette fête magnifique et cette mise en scène générale était digne d'un roi et non pas d'un financier.
Oui, une erreur.
Oui, une petite erreur diplomatique. Oui, voilà, exactement.
Un jardin aussi pour recevoir.
Alors, un jardin pour recevoir, on l'a vu pour les fêtes. On le verra également pour les grandes ambassades. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Et c'est là où l'on se rend compte que, effectivement, ce jardin, le roi le mettra à la disposition de tous ceux qu'il voudra séduire. Je parlerai volontiers de séduction. Quand il, dans une période difficile, il voudra séduire le financier Samuel Bernard pour obtenir des crédits, eh bien, c'est dans les jardins qu'il emmènera Samuel Bernard en l'invitant à se promener avec lui. Mais c'est surtout, ce sont les ambassadeurs étrangers. Toutes les grandes ambassades ont été reçues dans le château, mais également ont été reçues dans toutes les résidences royales. Et bien sûr, notamment à Versailles. Je pense à l'ambassade du Siam. L'ambassade du Siam a été reçue pendant plusieurs semaines. Ils sont allés absolument partout. Ils ont tout vu, tout. Les Tuileries, Saint-Germain, la machine de Marly, les jardins de Versailles. Le roi a même fait fermer les jardins pour qu'ils puissent se promener commodément et tout admirer. Et eux, dans leur relation, diront véritablement qu'ils ont été impressionnés par l'ensemble de ces jardins. Mais ce qui véritablement a provoqué chez eux le plus grand étonnement, c'est l'orangerie. Il faut véritablement traverser tout le parterre du Midi pour la découvrir. Et donc, c'est très étonnamment, en descendant ces marches, qu'on découvre ce palais, puisque c'est ainsi que nos ambassadeurs du Siam vont en parler. Ils vont dire, il faut être véritablement... Tout était extraordinaire. Il ne faut pas oublier qu'en fait, ils étaient venus et en fait, ils voulaient savoir qui était le plus grand. Si c'était le roi de Chine, le roi du monde. Si c'était le roi de Chine ou le roi de France. Et il faudra qu'ils arrivent devant l'orangerie, qu'ils découvrent cette stéréotomie absolument mais étonnante, magnifique et exceptionnelle de Jules Hardouin-Mansart, vraisemblablement quand même sur un croquis d'André Le Nôtre, parce qu'il y avait cette première orangerie, on dit que c'est lui qui a donné l'idée du dessin général, et c'est fort possible quand on voit les autres élaborations qu'il a pu faire dans d'autres jardins. Eh bien, nos ambassadeurs du Siam vont être là et vont dire... Il faut véritablement que le roi de France soit un bien grand roi pour pouvoir offrir un tel palais à ses orangers. Là, c'est véritablement le summum de la puissance d'un roi qui ne s'étale pas. Ça n'a rien de clinquant. Non, il faut descendre ces quelques cents et quelques marches pour découvrir ce palais des orangers. C'est quelque chose d'assez extraordinaire.
L'orangerie, c'était la première fois que ça existait ?
Non, il y a eu d'autres orangeries. C'est l'ampleur de cette orangerie qui est étonnante. C'est en plus les techniques employées. C'est une des premières orangeries qui n'est pas chauffée, puisqu'on a les systèmes d'isolation de murs, ces immenses portes sur le Midi qui sont avec des systèmes de double fenêtre, double châssis, avec possibilité de mettre des feuilles, etc. C'est la première fois. La première orangerie, elle était encore chauffée au charbon. Là, on supprime tout chauffage et on arrive à une température qui ne descend pas en dessous de 5 degrés l'hiver. Et puis, c'est cette ampleur. Ce sont ces masses immenses. C'était véritablement un palais. C'est un des plus beaux morceaux d'architecture qui puissent être donnés.
Et une performance technique qui va de pair.
Tout à fait. Et puis, ces jardins sont également, aussi le théâtre d'un roi thaumaturge, puisque c'est également dans les jardins, et plus particulièrement dans l'orangerie, qu'à plusieurs reprises, Louis XIV va toucher les écrouelles. Vous savez, quand on reçoit ces malades et qu'ils repartent, ils ont été touchés par le roi, et c'est quelque chose d'assez régulier, et surtout d'extrêmement symbolique de ce roi qui a reçu l'onction sacrée de ce roi de droit divin. On est dans un jardin qui est finalement quelque chose de beaucoup plus complexe. Et c'est à la fois plus codifié, puis en même temps informel. C'est un jardin où tout le monde pouvait se promener. C'est un jardin qui, au gré du temps et du public, a été tantôt ouvert, tantôt fermé, mais plus généralement ouvert. Il est vrai que le public, quelquefois, malmène les bosquets qui sont éminemment fragiles. Alors, quand un bosquet était trop abîmé, on le fermait et puis on le rouvrait au public un peu plus tard. Voilà, donc c'est ça, un peu Jardin de Versailles.
Poursuivez la visite des Jardins de Versailles en compagnie de Patricia Bouchenaud-Deschin. Deux autres émissions vous attendent sur le site de Canal Academy. Elles sont en libre écoute et libre téléchargement. Elles sont consacrées à l'importance du métier de jardinier au château à l'époque de Louis XIV et aux définitions que l'on donne aujourd'hui du jardin à la française. Merci de votre écoute et à bientôt sur canalacademy.com.